100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Service public, tout est dit dans ces deux mots. Service de santé, d'éducation, d'administration, bref, service essentiel, accessible à tous, à un moindre coût. Un service qui va même au-delà de son but premier, car il crée du lien entre les citoyens et avec l'État. Petit tour des services publics en Europe aujourd'hui, en commençant par la Grèce, pays malmené par des années de crise et de restrictions budgétaires. Pourtant, le gouvernement a choisi de rétablir l'accès aux soins pour tous, y compris pour les chômeurs en fin de droit, sans sécurité sociale. Une mesure qui a bénéficié à 2,5 millions de personnes, mais son pendant budgétaire a sans doute été oublié. C'est le reportage à Athènes de Charlotte Stevenard.
Dans la cafétéria de l'hôpital Evangelismos à Athènes, Despina boit son café. Cette infirmière privée n'est pas venue travailler aujourd'hui, mais se soigner. Elle n'a pas de sécurité sociale, car elle n'arrivait plus à payer les cotisations. La prise en charge gratuite est une aubaine pour elle.
C'est une super décision, car il y a beaucoup de gens qui, pour diverses raisons, comme moi, n'ont pas de sécurité sociale. Je suis venue voir un médecin car j'ai un problème avec ma thyroïde. J'avais fait des examens et je dois faire un contrôle. Le médecin m'a prescrit de nouveaux examens. Il m'a reçu sur rendez-vous, tout simplement.
Mais au quatrième étage de l'hôpital, Ilia Sioras, cardiologue et président de l'Union des travailleurs de l'hôpital Evangelismos, explique que l'envers du décor est moins rose.
Chaque hospitalisation d'un adulte coûte environ 2100 euros en moyenne, selon les barèmes officiels que nous estimons de toute façon sous-évalués. En 2017, nous avons hospitalisé plusieurs centaines, voire même plus de 2000 personnes non assurées dans cet hôpital. Nous estimons que l'hôpital Evangelismos aurait dû recevoir 7 à 8 millions d'euros de financement supplémentaire. Nous n'avons pas eu un seul euro. Comment l'hôpital Evangelismos peut-il hospitaliser gratuitement les non-assurés? Eh bien, il doit couper ailleurs, dans les examens, dans les médicaments, dans les machines, dans le personnel.
Au rez-de-chaussée de l'hôpital, le service des urgences vient d'ouvrir. Une centaine de personnes attendent déjà. Ilias Sioras explique que tous ne sont pas des cas urgents. Ils devraient aller se soigner dans des centres de soins publics gratuits aussi, mais il n'y en a pas assez.
Comme on manque de dispensaires gratuits, tous les jours, il y a des milliers de personnes qui arrivent ici pour les rendez-vous quotidiens, mais aussi aux urgences générales. Avec un petit refroidissement ou une petite fièvre, soit quelqu'un va dans le privé s'il a de l'argent, sinon il vient ici et il attend 10 heures. Tout le monde vient aux urgences, car il n'y a pas suffisamment de structures gratuites pour la médecine de ville.
Réformer le système de santé, c'est justement ce sur quoi travaille Yorgos Yiannopoulos, secrétaire général au ministère de la Santé. Il estime que le problème des urgences se réglera de deux façons à Athènes.
À la fin du mois de mars, nous aurons plus de 500 médecins qui seront uniquement dédiés aux urgences. Ils ne viendront plus d'autres cliniques ou d'autres services comme la cardiologie, ce seront vraiment des urgentistes. Et puis pour diminuer ce flux vers les hôpitaux, il faut que des centres de santé s'occupent des urgences. Ils font ça dans tout le pays, mais pas à Athènes. Dans les prochains mois, notre objectif, c'est que 5 centres d'urgence d'Athènes puissent offrir des soins.
Selon lui, les dépenses liées aux soins des non-assurés ont triplé depuis 2015. Mais dans les bureaux de l'Union des travailleurs des hôpitaux, on estime que ce sont les assurés et pas l'État qui en ont payé le prix, comme l'explique Michalis Yannakos, le président.
C'est le peuple grec qui l'a payé, car les contributions santé à la sécurité sociale, le OPPY, ont augmenté de 200%, aussi bien sur les salaires que sur les retraites et les retraites complémentaires. Le OPPY reçoit grâce à ça 800 millions d'euros qui malheureusement ne sont pas investis dans les hôpitaux. Le résultat, alors que la demande a augmenté et que le budget des hôpitaux est resté le même, c'est une situation inacceptable pour les patients.
Le syndicat des travailleurs des hôpitaux estime que 25 000 postes ont été supprimés dans le secteur de la santé depuis le début de la crise. Le gouvernement a promis qu'il embaucherait 10 000 personnes pour faire face au manque de personnel accumulé ces dernières années, mais seuls 2 500 devraient l'être cette année. Avec les élections législatives qui arrivent à l'automne, pas sûr qu'il arrive à tenir ses promesses.
Des démarches simplifiées, une administration efficace et bienveillante, c'est le rêve de tout citoyen. La Géorgie l'a fait, son Public Service Hall, comme on l'appelle à Tbilissi, est un modèle du genre et c'est surtout une manière pour ce pays de se démarquer de son encombrant passé soviétique. Efficacité et transparence sont les maîtres mots. Visite avec Régis Janté.
C'est une fourmilière où des milliers de Géorgiens s'affairent chaque jour sans jamais se plaindre, sans jamais avoir à se plaindre. L'édifice surnommé le champignon, en raison de ses vastes toits blancs aux formes arrondies, symbolise à lui seul le dynamisme qui anime la Géorgie depuis plus de 15 ans, celle d'un pays qui veut à tout prix s'arrimer à l'Occident, à l'Europe, pour mieux échapper à la Russie, empêtrée dans son indécrottable corruption et sa bureaucratie malignement tatillonne. À l'intérieur du champignon, tout n'est que vert, transparence, espaces ouverts, afin que jamais un citoyen ne se retrouve seul face à un fonctionnaire. Les agents de la maison de la justice sont là, en uniforme discret, sourire aux lèvres, prêts à répondre à chaque demande des administrés. Et avec rapidité, en l'inaugurant, l'ancien président Saakashvili avait souhaité par exemple que les cartes d'identité soient délivrées en un seul jour. Et ce, grâce à une digitalisation maximale des procédures. S'il y a bien eu une révolution en Géorgie, avec la révolution des roses de 2003, c'est celle du service public dans une république dont la réputation, à l'époque soviétique et juste après la chute de l'URSS, était celle d'une contrée où tout s'achetait. Un vrai succès, ses concepteurs, comme l'ancien vice-ministre de la justice Georgi Vachadze, sont aujourd'hui consultants, ouvrant des public service halls ou conseillant sur la mise en place des appels d'offres électroniques, notamment en Europe de l'Est, comme en Ukraine.
Et ce n'est pas un hasard si l'autre champion de l'administration en ligne est un ex-membre de l'URSS, l'Estonie, ou l'Estonie, comme on l'appelle, est un petit pays balte qui a tout misé sur Internet, au risque parfois d'en faire trop. Les explications de Marielle Vitureau.
L'image a fait le tour du monde. Des ministres qui arrivent les mains dans les poches ou presque pour leur réunion hebdomadaire, car tous les documents sont archivés en ligne et ils n'ont besoin que de leur carte d'identité à puce pour les signer électroniquement. Efficacité, rapidité, économie, l'Estonie ne voit que des avantages à ce système et elle aime en faire la publicité. Le centre de la Estonie ou de l'Estonie en ligne a tout juste une station de tramway de l'aéroport de Tallinn, est un passage obligé pour tous les visiteurs. Tout a commencé dès l'indépendance en 1991 et la volonté de tirer un trait sur le passé soviétique. Au cœur de cette administration en ligne, une architecture informatique de croisement des données qui permet à chaque administration de voir les informations qui l'intéressent. Le système fonctionne plutôt bien. Déclarer ses impôts prend quelques minutes car les documents sont pré-remplis, les bulletins scolaires ne sont plus envoyés par la poste, il suffit d'ouvrir une application. Mais le système a aussi ses limites. Thomas a coché toutes les cases possibles pour protéger ses données et leur partage. Envoyé à l'hôpital pour passer une radio, l'infirmière n'a pas pu ouvrir son dossier car l'accès ne lui était pas autorisé. Comme tout se fait désormais en ligne, impossible pour Thomas de remplir un formulaire papier pour autoriser le radiologue à travailler. Pour ceux qui craignent de voir leurs données piratées, le pays peut devenir synonyme de cauchemar. Récemment, l'Estonie a été confrontée à des failles théoriques de sécurité sur les puces des cartes d'identité et a dû les renouveler. Mais l'Estonie croit dur comme fer à son système. Près d'un tiers des Estoniens ont voté sur Internet à l'occasion des élections législatives début mars et la présidente Kersti Kaljulaid a récemment fait une grande tournée africaine pour justement vendre ses solutions d'administration en ligne.
Et la question des déserts administratifs a aussi été une des revendications des manifestations des Gilets jaunes en France, des territoires qui se sentent abandonnés. Dans le département rural de l'Aisne, dans le nord de la France, c'est l'administration qui se déplace dans un camping-car. Il vient en aide aux populations peu mobiles ou peu agiles avec Internet. C'est le reportage de Lise Verbeck.
C'est parti!
Angélique Imbert s'est désormais manœuvrée parfaitement le camping-car sur les petites routes de campagne. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle sillonne 33 communes avec un arrêt une fois par mois dans chacune d'elles. Des communes isolées qui n'ont plus aucun service public depuis plusieurs années. Cet après-midi-là, la fonctionnaire et sa collègue s'arrêtent à Iron, village de 200 habitants. Le camping-car est équipé pour recevoir les usagers et les accompagner au mieux dans leurs démarches administratives.
À l'avant du véhicule, les deux sièges se retournent pour avoir un espace administratif. Donc à l'entrée, 2 portes à gauche et à droite, donc 2 ouvertures. Donc ma collègue est principalement devant, donc comme ça on peut accueillir 2 personnes à la fois. Donc un petit couloir où vous avez donc la petite kitchenette où on a essayé de mettre nos dossiers des usagers et les dossiers des caisses. Et donc là, c'est mon espace administratif. Donc vous imaginez, si c'était un véhicule de tourisme, la salle à manger pour la petite famille. Ma collègue et moi, nous avons un ordinateur portable chacun avec une clé 4G, une imprimante scanner et qui fait fax aussi. Voilà.
Allez-y, installez-vous. Mettez-la. Mettez-vous là.
Bruno vient demander de l'aide concernant un trop-perçu réclamé par l'assurance chômage.
Allez-y, rentrez, je vais fermer, vous inquiétez pas. Vous êtes au fond, si vous voulez. Ah, on s'est déjà vu.
Ça se peut. Non, c'est la première fois que je suis
ici. Ah, bah vous ressemblez à quelqu'un d'un autre.
Waouh. Au niveau NPE, vous faites un petit peu de...
Pôle emploi. Oui. Oui, dites-moi, c'est pour...
Moi, j'ai reçu ça de l'NPE. Donc ça, ça se passait déjà en... Voilà. On réclame une somme assez importante, donc je ne peux pas payer. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Mais d'après certaines personnes, c'est pas... Il débrouille bien les gens, quoi. Donc là, c'est pour ça que c'est ici. C'est bien, ce petit camion. Enfin, bon, j'ai un petit camion, quoi.
Petit camping-car.
Petit camping-car, ouais. Voilà.
Et vous avez un espace personnel sur Internet?
Non.
Donc il n'a pas déjà ça. Déjà partir de là, mais...
Je vais vous créer une adresse mail.
Parce que de là, vous êtes encore au chômage.
Oui, j'ai arrêté, j'ai fait.
Les deux agents peuvent aider les personnes sur le long cours. C'est le cas pour Nathalie, qui est atteinte de sclérose en plaques.
À cause de ma maladie, j'ai beaucoup de difficultés à penser, réfléchir, et j'oublie beaucoup de choses. Donc je préfère être assistée pour avoir de bonnes réponses par rapport à ma famille, mon mari, mes enfants, ce que je dois faire.
D'autant que la caisse d'assurance maladie se trouve à 50 km de chez elle.
Là, bon, j'ai ma canne pour faire quelques kilomètres, mais sinon je suis en fauteuil roulant. Donc je ne peux pas me déplacer sans personne. Et donc comme mon mari travaille, il est chauffeur routier, et je ne peux pas demander à mon mari de prendre une journée juste pour ça, étant donné que j'ai beaucoup de rendez-vous aussi chez les spécialistes encore. Là, c'est prêt, donc pour moi ça m'arrange très bien pour mes papiers.
La fréquentation du camping-car a doublé depuis que le dispositif existe. Angélique et sa collègue reçoivent 100 de personnes par mois, âgées de 50 à 64 ans, et elles les aident beaucoup sur leur dossier de retraite.
On est à proximité de soit leur travail ou leur domicile, donc il est beaucoup plus facile de venir à nous. Nous touchons donc la CARSAT, donc tout ce qui est retraite. Donc, vu la tranche d'âge, tout ce qui est dématérialisation des titres sécurisés avec le site ANTS, Agence Nationale des Titres Sécurisés. Donc c'est surtout un appui en fait sur l'outil informatique qui fait toujours peur encore à l'heure actuelle des usagers. Et donc on entreprend les démarches avec eux. Alors soit on essaye un petit peu de les pousser à l'outil informatique, donc s'ils sont ouverts bien entendu, et on fait vraiment le dossier retraite de A à Z, que ce soit papier ou numérique. Donc ça va de, si c'est numérique, ça va de la création de la boîte mail, création du compte.
Ce service public itinérant permet également de recréer du lien social dans des villages où il n'y a plus de poste, de banque, ni de café ou de commerce. Il est expérimenté encore jusqu'en début d'année prochaine et le principe devrait s'étendre peu à peu à d'autres territoires en France.
Brexit. Hard.
Semaine cruciale pour le Brexit. On devrait savoir d'ici vendredi si les Britanniques acceptent l'accord de divorce négocié par Theresa May, s'ils choisissent plutôt de se donner encore du temps ou de se séparer sans aucun accord. toutes les cartes sont encore sur la table. Dans ce contexte, il est intéressant d'écouter l'historien irlandais Fintan O'Toole. Dans son livre Heroic Failure, publié chez Hedges, il publie une thèse intéressante. Finalement, le Brexit n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe, mais plutôt avec une crise d'identité. Fintan O'Toole est interviewé par Sylvie Noël.
La chose la plus compliquée à comprendre à propos du Brexit, c'est que fondamentalement, ce n'est pas une réaction à l'Union européenne. Dans cette affaire, l'Union européenne n'a été qu'un bouc émissaire pratique. Selon moi, le Brexit est davantage un phénomène anglais que britannique qui résulte de la perception qu'ont les Anglais de leur identité propre. Il était facile de rendre l'Union européenne responsable de problèmes qui découlent en fait d'une crise d'identité que les Anglais n'ont jamais résolue et qui concerne principalement deux aspects. Les leçons qui auraient dû être tirées de la Seconde Guerre mondiale, ce que la plupart des pays européens de l'Ouest ont fait, et les conséquences du déclin et de la fin de l'Empire britannique. C'est la combinaison de ces deux éléments qui a conduit à la crise actuelle.
En lisant votre livre, on réalise en effet à quel point l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou l'histoire de l'Empire britannique semblent être des souvenirs toujours très présents dans l'esprit des Brexiteurs.
Les références à la Seconde Guerre mondiale sont fréquentes. Il faut se souvenir que les Britanniques étaient du côté des vainqueurs en 1945. C'est alors que s'est installée dans les esprits cette impression sombre, étrange, que la construction européenne avait inversé le rapport de force issu de la Seconde Guerre mondiale. Les vainqueurs étaient devenus les perdants, les Britanniques étaient les vainqueurs. Ils avaient battu les Allemands, mais à terme, c'était les Allemands qui avaient en fait gagné, car l'Union européenne était avant tout une entité dominée et dirigée par l'Allemagne. Je comprends que cela puisse paraître un petit peu délirant. Le problème, c'est que vous avez eu en Grande-Bretagne, et principalement en Angleterre, une presse populaire et une partie de la classe politique qui ont fait de l'Union européenne la cause de tous les problèmes. Donc, il n'y a jamais eu de discours positif à l'égard de l'Europe. Le discours que la Grande-Bretagne s'est forgé est vraiment différent. Il évoque une Grande-Bretagne opprimée par l'Union européenne. C'est ridicule, je sais, mais c'est une invention de la presse populaire et d'hommes politiques, comme Boris Johnson. Ils n'ont cessé de dire que l'Union européenne interférait dans la vie des Britanniques, dans leur façon de vivre, qu'elle leur dictait ce qu'ils devaient manger, par exemple, qu'elle prenait des décisions qui avaient pour seul but de pervertir l'identité anglaise. Tout cela semble ridicule, mais cela a été, jour après jour, un thème récurrent de la presse populaire au cours de ces 30 dernières années. Cela a fini par imprégner les esprits, et quand on a demandé aux Britanniques s'ils voulaient ou non quitter l'Union européenne, une majorité a vu dans le « oui » le moyen de se libérer d'une oppression qu'ils jugeaient insupportable.
D'une certaine façon, le Brexit serait vu comme un moyen de retrouver la grandeur passée du temps de l'Empire.
Beaucoup de Britanniques ont le sentiment qu'en quittant l'Union européenne, la Grande-Bretagne pourra renouer contact avec les pays du Commonwealth dans le cadre d'un empire blanc et moderne. Ils ont l'illusion que les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande sont prêts à leur offrir de fantastiques accords commerciaux qui permettront de compenser la disparition des privilèges que représente l'accès au marché unique. Objectivement, c'est ridicule, mais tout cet imaginaire a pour seul but de perpétuer l'idée que la Grande-Bretagne est un acteur mondial majeur plutôt qu'un simple membre de l'Union européenne.
Heroic Failure de Fintan O'Toole, à lire en anglais chez Hedges. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, puis Accent d'Europe. Restez à l'écoute de RFI.